EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bonjour et bienvenue à tous dans la table avec Annabelle. Nous poursuivons cette semaine où nous parlons de sujets qui peuvent être parfois douloureux. On a parlé lundi de violence conjugale. Aujourd'hui, on va parler de suicide, de drogue, d'addiction. Mais nous allons voir aussi comment Dieu est bon. Alors, c'est une occasion de se rappeler encore une fois de toute la bonté de Dieu. Et comme je l'ai dit lundi, on a reçu Johanna qui nous a parlé des violences sexuelles. Pas des violences conjugales, mais des violences sexuelles. Et c'était une excellente émission.
Oui, moi, si vous n'avez pas écouté l'émission, vraiment, je vous encourage à l'écouter et à la partager. Vraiment, moi, j'ai aimé beaucoup Johanna. C'était instructif, c'était à propos, c'était la justice de Dieu aussi. C'était apaisant. Je pense que cette émission peut être un sujet de consolation vraiment à travers les paroles de Johanna. Alors n'hésitez pas à partager avec quelqu'un autour de vous sans le savoir, mais juste dire écoute, moi j'écoute cette émission là, peut-être que ça te ferait du bien. Mm. Et franchement, moi je l'ai beaucoup aimé. Bravo Johanna, franchement, c'était une magnifique émission.
En effet, alors partagez, n'hésitez pas, ça peut sauver la vie d'une femme. Et si vous avez une personne qui est sur votre cœur, eh bien partagez l'émission, même si vous vous dites c'est un petit peu bizarre, je suis peut-être un petit peu gênée. Vous ne savez pas ce que cette femme a pu vivre ou ce qu'elle vit aussi aujourd'hui. Donc cette émission, ça peut être comme une bouée qui va lui permettre de revenir à la surface. Et c'est un geste qui est simple de partager une émission. Et quelquefois, on n'imagine pas la portée que ça peut avoir. Alors, n'en privez personne, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, Stéphanie, on a le témoignage. On va recevoir Clémentine. Clémentine qui va nous partager son témoignage de vie et nous raconter comment Dieu est venu la chercher alors que en quelques années de sa plus tendre enfance et jusqu'à ce qu'elle soit une jeune adulte, elle a vécu tout un tas de choses, des pensées de suicide, tentatives de suicide, drogue, angoisse, anxiété, etc. Bref, toute une vie qui était difficile, qui était lourde, et pourtant, Dieu a fait un miracle dans sa vie. Alors Clémentine, bienvenue à toi dans À table avec Annabelle. On est très heureuse avec Stéphanie.
Oui, content d'être avec toi, Annabelle,
de pouvoir t'accueillir.
Bonjour. Allô, Clémentine.
Merci beaucoup. Bonjour.
Donc, ça va bien, toi, Clémentine?
Ah. Oui, ça va, merci.
Alors Clémentine, c'est ça, on disait, tu as vécu une vie assez tumultueuse dès ton plus jeune âge. On va voir qu'en quelques années, il y a eu un condensé de choses assez difficiles. Et pourtant, tu vas nous raconter aussi comment ta vie a changé. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde ne raconte pas sa vie, tout le monde ne raconte pas ce par quoi ils sont passés. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des bagages qui sont lourds quand même dans la vie, qui ont vécu pas mal de choses. Et le fait que tu puisses le partager toi-même, que tu puisses raconter ce par quoi t'es passé et mettre des mots là-dessus, eh bien je crois que ça va permettre à d'autres personnes de se dire, il y a de l'espoir pour moi aussi. Il y a de l'espoir, ce que Dieu a fait pour Clémentine, eh bien il peut le faire aussi pour moi. Et tu racontes en fait, parce que j'ai pu suivre ton témoignage sur YouTube, tu racontes que en fait dès ton plus jeune âge, t'as commencé à avoir tout un tas de comportements dysfonctionnels, tant au niveau des pensées suicidaires que de la sexualité, etc. Donc je vais te laisser nous raconter ton histoire, comment ça a commencé et à quel âge ça a commencé.
Ok, merci beaucoup. Alors pour commencer, j'étais pas du tout chrétienne, j'ai pas une famille chrétienne, donc je connaissais pas Dieu, même je détestais Dieu, Jésus, les chrétiens. J'avais perdu mon père à 5 ans et demi, donc pour moi, un Dieu qui fait perdre un papa, ça n'existait pas. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai commencé très tôt, vers mes 6 ans, à avoir des pensées suicidaires, à prendre des couteaux, à vouloir me tuer, à sauter par des fenêtres, etc.
Et tu prenais des couteaux, tu menaçais de le faire, ou t'as essayé de passer à l'acte?
Je menaçais. En fait, en 2019, hein, on va avancer, mais en 2019, je me suis souvenue que j'avais été obligée d'aller voir un psychiatre. Et du coup, j'ai été demander mon dossier. Et dedans, il était écrit que j'avais pris des couteaux pour me tuer, que j'avais peur, que je pouvais plus dormir toute seule, etc. Et ce psychologue, sa conclusion, ça a été pas de problème pour sa structure psychique. Ah. Et en fait, je me suis retrouvée avec des professionnels et des adultes autour de moi qui, bon, il y a rien de grave, qui faisaient rien, quoi. Et comme j'avais perdu mon papa, au début, c'était la pauvre petite qui a perdu son papa. Elle est comme ça parce qu'elle a perdu son père et ça explique son comportement, quoi.
Et tu racontes aussi dans ton témoignage que dès ton plus jeune âge aussi, tu avais des comportements sexuels qui étaient inappropriés.
Ouais, ça a été vraiment une partie de ma vie où j'ai eu honte toute ma vie. Je pensais que j'étais un monstre parce que je savais que c'était pas bien. Je savais que ça se faisait pas, etc. Mais j'arrivais pas à expliquer à longueur de journée dans ma tête. Je pensais à la sexualité et en fait, j'allais chercher des garçons pour faire des choses. Et vers mes 11-12 ans, en fait, ça s'est su. Parce que je l'avais dit à une personne qui l'avait dit et à beaucoup de monde. Et en fait, ça s'est su. Enfin, j'ai fait une amnésie, donc je me souvenais pas, mais mon corps et mon cerveau, oui. Et je me suis dit, parce que j'avais été abusée enfant. Et en fait, on m'avait dit, si tu me dis, je vais partir. Et en fait, cette personne était partie. Et quand ça s'est su, ça a fait une bombe à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai eu une peur des relations sexuelles. D'un sens, tant mieux, parce que sinon, j'aurais fini enceinte à 14 ans, ça se trouve, même moins. Mais j'ai eu une peur de la sexualité. Je ne pouvais plus faire quelque chose avec quelqu'un, quoi, jusqu'à ce que je me marie.
Ok.
Mais moi, j'ai juste une question. Je sais pas, mais à partir de 6 ans, ou qu'est-ce qui a généré ça? Même la notion de comportement sexuel, c'est pas en fait normal pour quelqu'un de 6, 7 ans, 8 ans, de tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un déclencheur et où tu as vu ça? Je sais pas. Ça, je me pose la question.
Eh ben, justement, en fait, j'ai tout le temps pensé que j'étais un monstre. Et des années plus tard, en 2018, le Seigneur m'a emmené, enfin, je criais à lui à la fin, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas chez moi? Et puis, en fait, petit à petit, des souvenirs sont revenus. Des souvenirs, en fait, que j'avais déjà, mais sauf que j'avais soit le avant ou le après. Et en fait, j'ai vu que j'avais été violée enfant. Quand on subit ce genre de choses, notre innocence elle est volée. Et en fait, on nous laisse ça. Et du coup, cette personne était partie. Et donc, en fait, elle me laissait tout cet héritage. Et en fait, mes pensées, c'était que ça, quoi.
C'est juste que tu n'en avais pas conscience jusque-là, en 2018, quand ce qu'on appelle le phénomène de la mémoire traumatique. Mais ceci dit, tout en toi révélait qu'il y avait un traumatisme qui était là, d'où tous ces comportements destructeurs, tant au niveau du suicide directement que de la sexualité et aussi on va le voir, des addictions, parce que je crois que c'est à partir de 9 ans, c'est ça, que tu as commencé à boire.
À 9 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes, j'étais en CM2. Aujourd'hui, je suis maman, j'ai une petite fille et je me dis, mais mon Dieu, voilà, donc en CM2, 9 ans, j'ai commencé à fumer des cigarettes. À 13 ans, j'ai commencé à boire. Je me scarifiais beaucoup. Je me souviens que je prenais des bains bouillants parce que je souffrais tellement psychiquement que j'avais besoin de me faire du mal sur moi pour que cette douleur à l'intérieur, elle s'étouffe. Puis après, j'ai commencé la drogue à 15 ans. Et puis, j'ai arrêté l'école à 16 ans, arrêt scolaire, mais catastrophique, je me faisais virer. Ma vie était catastrophique, quoi. Ça ne donnait pas du tout envie.
Et ton entourage, avais-tu dans ton entourage quelqu'un autour de toi qui avait le regard sur toi, qui était bienveillant, qui voyait que tu étais en détresse, ou t'avais personne était autour de toi pour te...
Mes sœurs, elles voyaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais moi, j'étais très insolente, j'étais très très dure. Donc en fait, je me laissais pas faire, et même moi, je savais pas. Pour moi, c'était à cause que mon père était décédé et j'avais pas autre chose. En fait, je savais pas non plus pourquoi j'étais comme ça.
Ok. Donc, au niveau de la drogue, t'as commencé à prendre de la drogue à quel âge, t'as dit?
À 15 ans.
Ok, 15 ans. Et là, c'est c'était juste pour le fun, ou est-ce que c'est devenu une addiction?
En fait, j'étais sortie avec le dealer du lycée. Et puis, je m'étais toujours dit, jamais je goûterai à la drogue. Et puis, je voulais essayer une fois. Puis, je me suis rendu compte que l'alcool, après, bon, le lendemain, on est mal, etc. Qu'en fait, la drogue, on était bien pendant 2 heures. Puis après, ça s'arrêtait. Et puis, en fait, on était bien, on rigolait, etc. Donc, en fait, la drogue m'a énormément plu. Et à la fin, je suis complètement tombée dedans. Je passais mes journées. Je me levais le matin et jusqu'à 3 heures du matin, je me droguais. J'avais que ça.
Et comment tu allais pour financièrement, comment tu faisais pour... tu pouvais pas te travailler, comment tu faisais pour payer toutes ces choses?
Eh ben, quand mon père est décédé, c'était un accident du travail. Donc, du coup, j'avais reçu de l'argent. Et en fait, je prenais cet argent-là.
Ok. Et donc, tu dis à 16 ans... Ouais, vas-y, excuse-moi. Vas-y, Clémentine.
J'avais des piercings partout, entre les yeux, j'avais des dreads dans le cou, des tatouages, j'avais plus de pistolet. Enfin, voilà, qu'aujourd'hui, je regrette beaucoup. Mais non, j'étais une autre personne, quoi.
Et à 16 ans, t'arrêtes l'école. Donc là, c'est décrochage complet. Est-ce que tu vis encore avec ta mère, tes sœurs, à cet âge-là?
Ouais, je vis avec ma mère. Et justement, en fait... Bon, je fais rien de mes journées, quoi. Je sors, je vais voir des amis, puis c'est tout, quoi. Et c'est à l'âge de 18 ans, en fait, j'ai eu un décès dans ma famille.
Ouais.
Et en voyant certaines personnes, et en fait, en repensant, comme je disais tout à l'heure, en fait, j'avais tout le temps des souvenirs, mais de soit avant ou après, mais jamais de ce qui s'était passé. Et en fait, à partir de là, je commence à avoir des crises d'angoisse. Et à ne plus pouvoir sortir.
Après le décès de cette personne, le fait de revoir toute ta famille, là, ça déclenche des crises d'angoisse. Et c'est quoi, ça ressemble à quoi, en fait, ces crises d'angoisse?
Je peux plus sortir de chez moi. Je peux même plus faire de repas de famille. Je peux même plus manger à table avec ma mère, mon beau-père.
Ah, ok, c'est soeur, vraiment... Tu restes dans ta chambre?
Ouais.
Ok. Ouais. Et ça dure combien de temps, ça?
Ça a duré 9 ans.
Hein? 9 ans. Et ça, 9 ans. Et t'avais quel âge quand ça a commencé?
18 ans.
Ok, donc de 18 ans jusqu'à tes, du coup, 27 ans, t'es restée cloîtrée dans ta chambre chez ta mère.
En fait, je me suis dit, il y a peut-être un problème chez ma mère. Donc j'ai déménagé, j'ai pris un appartement. Puis j'ai été voir un médecin pour dire, mais non, mais je vais pas bien, je pense que je suis en dépression, j'ai des angoisses, j'arrive plus à sortir. Même je pouvais pas travailler, je m'étais dit, à 18 ans, je travaille, je pars, etc. Et en fait, non, je me retrouve emprisonnée. Et du coup, donc je suis sous médicaments et tout, mais en fait, ça va pas. Et j'avale tous mes médicaments, et là, première tentative. Donc je suis née à l'hôpital. Je dis à ma mère et mes sœurs, ne dites rien, faites en sorte que je sorte le plus rapidement. Donc je sors, je retourne chez ma mère. Bon, ça va un peu mieux, je suis toujours sous le médicament, mais en fait ça me fait rien. Et puis je repars, je reprends un appartement. Et puis c'est à ce moment-là où vraiment ça a commencé avec le Seigneur, mais où en même temps mon état, ça a chuté.
Mais juste, je veux revenir quand même, parce que 9 ans, c'est extrêmement long, 9 ans d'isolement comme ça. Qu'est-ce que tu fais, en fait, de tes journées? Qu'est-ce que tu fais parce que c'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est 9 ans. Qu'est-ce que tu fais à longueur de journée?
Franchement, alors, quand j'ai eu mon appartement, je me souviens, en fait, je restais dans ma chambre, je me droguais, puis je regardais des séries ou des films. j'écoutais la musique. Et voilà.
Ok, t'avais plus, même t'avais plus d'amis?
Alors, bah, je les voyais plus.
Mmh. Et tu
parce que j'arrivais pas à sortir. Bah, justement, moi qui aime aujourd'hui bien cuisiner, etc., bah, en fait, je pouvais pas parce que déjà pour faire les magasins, pour acheter à manger. Bah, j'allais dans un tout petit magasin, puis je prenais des plats préparés, puis hop, je partais. Puis même pour aller acheter ma drogue, c'était exactement pareil. Je sortais, je prenais, je rentrais chez moi, on sonnait chez moi, je dis, oh, je me cachais, non, je réponds pas, je suis pas là. Je...
Ouais. Et là, tu comment est-ce que tu envisageais l'avenir? Comment tu voyais, tu te voyais? Est-ce que tu te voyais vieillir? Tu te disais, mais ma vie... je sais pas, qu'est-ce que tu te disais sur ouais, les années à venir?
Je me disais, à un moment donné, ça va s'arrêter. Je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et j'ai été voir des psys. J'ai commencé à aller voir des psys. Mais bon, ça faisait rien. On me changeait mes médicaments, on changeait des traitements, etc. J'en ai fait plusieurs. Ça faisait rien. Et je me disais, bon, à un moment donné, ça va s'arrêter. Puis j'avais tellement vécu dans ça qu'en fait, j'avais l'habitude à la fin d'être ouais, comme ça.
C'est devenu ton quotidien. Et tu dis que c'est aussi pendant ce temps-là que Dieu a commencé à venir te rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, bah, je regardais sur YouTube, puis je commence à tomber sur des témoignages chrétiens. Je regarde, puis je me dis, mais ils sont complètement malades. c'est pas possible, quoi. N'importe quoi. Mais en même temps, ça m'attire. Mmh. Et puis à chaque fois que j'ouvre mon ordinateur, que je vais sur YouTube pour écouter une musique, ben en fait je retombe sur un autre témoignage. Et en fait j'avais l'impression vraiment Jésus il me serrait entre quatre murs et puis en fait je voyais partout. Et puis j'ai commencé à faire des recherches parce que je voyais ces stars qui avaient vendu leur âme, etc. Nanana. Donc je voulais faire les recherches. Je me disais mais ils sont complètement fous, etc. Et en fait ma famille m'avait connu beaucoup de choses spirituelles, donc ça, le spirituel, j'y croyais. Et puis, au moment où j'ai fini mes recherches, etc., et où dans mon cœur, je me dis, mais Dieu, il existe, en fait. Mm-hmm. Là, parce que beaucoup de gens disent, oui, c'était à cause de la drogue, mais non, à ce moment-là, où je me suis dit que Dieu existait, des voix ont commencé à venir, et en fait, on me répétait à longueur de journée, tue-toi. 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 On me réveillait la nuit comme si qu'on me bousculait et comme si qu'on me parlait vraiment à mon oreille, comme si qu'il y avait quelqu'un et en fait on me répétait. Donc je pouvais plus dormir. Mes journées c'était que ça. Donc
à longueur de journée, t'entendais une voix qui te disait de te tuer. Donc non seulement t'es enfermé chez toi, t'es complètement coupé du monde, et là il y a ces voix, tu réalises, ok, Dieu existe, et à ce moment-là c'est un nouveau niveau d'oppression qui arrive constamment. Tu te couches, tu te lèves constamment, tu entends une voix qui te dit de te tuer. Et mais t'avais déjà aussi des pensées suicidaires, t'avais déjà fait des tentatives. Du coup là, est-ce que t'en as fait d'autres à ce moment-là?
Ben, au début, je me disais, oh non, ça va aller, je vais réussir. Puis je voulais pas le dire parce que j'avais peur qu'on m'enferme, en fait. Mmh. Et puis, au bout d'une semaine, deux semaines, parce que vraiment, ça me réveillait, comme si ça me poussait, et puis ça me répétait, donc je pouvais même plus dormir. Alors, je me disais, ben, je vais essayer de me droguer encore plus, comme ça, je vais pouvoir peut-être dormir, et non, je pouvais plus. Et au bout d'une semaine, deux semaines, et ben, en fait, là, je me suis dit, oh, bon, bah, de toute façon, j'ai jamais rien fait de mal, j'ai jamais tué personne, si je meurs, j'irai au paradis, je retrouverai mon père, etc. Tous les mensonges de l'ennemi, quoi. Et puis, un soir, il était 2 heures du matin, et en fait, ça arrêtait pas. Et là, j'ai fait une lettre à ma mère, j'ai mis dans sa boîte aux lettres, j'ai pris ma voiture, et puis j'ai foncé à toute vitesse, et puis je me suis crutchée dans les barrières de sécurité.
Et là, tu pensais, là, c'était pas une tentative, là, t'y allais pour de vrai, tu voulais en finir.
Ouais, non, là, c'était, même, je me souviens, les dernières paroles, c'était papa, j'arrive, mais vraiment, là, je me suis détachée, enfin, c'était parti, quoi, c'est vraiment, là, je pouvais plus, c'était plus vivable.
Bon, visiblement, ça n'a pas fonctionné, mais dans quel état t'étais, après ce crash de voiture?
Bah justement, je me rends compte que bah je suis vivante. Et là, je dis mince. Et puis.
Et t'étais quand même blessée ou quelque chose?
J'avais mal au nez avec l'airbag, j'avais mal à l'épaule, ma voiture était complètement morte, les roues étaient parties, etc. Mmh. Et puis il y a des personnes qui s'arrêtent sur le côté, enfin il était 2 heures, mais voilà. Et en fait ils appellent les pompiers, et là je me dis mais en fait je suis morte, parce qu'en fait ils vont me faire un test pour la drogue, et puis je suis morte quoi. Mmh. Et parce que j'avais mes piercings entre les yeux, enfin vraiment ça se voyait que je me droguais quoi, enfin j'avais l'allure quoi.
Quand tu as fait cette tentative là, tu étais sous l'influence de substances aussi, c'est ça? Tu avais consommé?
Oui, parce qu'en fait là c'était tellement intense les voix que j'arrivais même plus à dormir, donc je me disais je vais plus me droguer, comme ça j'ai peut-être réussi à m'endormir, sauf qu'en fait
et des fois c'est l'inverse, hein? Plus tu drogues, plus tu entends des voix aussi, mais c'est ça, hein? C'est le cercle vicieux de la consommation. Ok, ouais. Donc c'était vraiment
En fait t'es même pas blessée gravement?
Non.
Et c'est assez miraculeux, la voiture est complètement explosée, il n'y a plus de roue, il n'y a plus rien, mais toi finalement t'es à peine blessée de tout ça. Et ça se passe comment à l'hôpital? T'es dans quel état? T'es dans quel état à ce moment-là? Émotionnellement?
Du coup, je me dis, il faut surtout pas que je... En fait, j'ai dit que j'ai voulu changer de musique et que j'ai pas vu et qu'en fait, j'ai fait ça sans faire exprès. Mmh. Je voulais pas dire que j'avais fait une tentative parce que sinon, ils m'auraient gardé. Je voulais pas dire que j'avais des voix parce que sinon, c'était l'hôpital psychiatrique assuré. Et moi, je voulais mourir. Je voulais pas qu'on m'enferme. Enfin, vraiment, je voulais... C'était fini, quoi, pour moi. Et du coup, j'appelle ma mère à 3h du matin, tu peux venir me chercher. Puis en fait, les voix, ça continue. Mmh. Ça continue. Donc, je rentre chez elle, j'essaye de dormir, mais je peux pas. Ça me bouscule, ça me réveille. Et le lendemain, mais j'ai plus d'émotion. Je suis plus rien, mes sœurs viennent. Et puis, elles pleurent et moi, je les regarde. Et en fait, dans ma tête, je me dis, j'ai plus de voiture pour me tuer. Je vais trouver un autre moyen, en fait. Et puis, je sais pas pourquoi, mais là, je me dis, je vais commander une Bible. Je sais pas. Pourtant, j'avais plus d'espoir. Hein. Ouais, mais...
Et là, au fond du trou, tu commences... Toi-même, tu commandes une Bible. C'est même pas quelqu'un qui te l'a offerte.
Non.
OK.
Ah non, mais même Dieu m'a... J'étais toute seule dans ma foi. Enfin, on va voir, mais j'étais toute seule. Mais Dieu, il a toujours été là. Il m'a soutenue, enfin, vraiment. Donc, je commande une Bible et je la reçois en un jour. Et puis en fait, j'ai jamais lu de Bible, je sais même pas c'est quoi l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et j'ouvre et en fait, je tombe sur Matthieu et je lis. Je sais que ce que je lis, c'est la vérité. Mm-hmm. Mais il y a des trucs, pardonnez à vos ennemis. Moi, j'étais quelqu'un de très colérique et tout. Là, je me dis non. Et puis moi qui insultais Jésus, je commence à lire. Puis je me dis, mais il est cool en fait, ce Jésus. Les gens disent. Puis au moment où on l'arrête, je m'arrête. Et puis on sait que Jésus, il est sur la croix, on le voit partout. La France est très catholique, on voit les croix avec Jésus, etc. Mais là, je me dis, mais ils vont me tuer, mais il n'a rien fait. Et là, en fait, je commence à ressentir, à pleurer. Puis je vais dans ma salle de bain et je me mets à genoux et je dis, mais si t'existes, si c'est vraiment vrai, mais je te donne toute ma vie, tu fais ce que tu veux de moi. Mmh. Et là, un amour, une paix qui m'est tombé dessus, j'ai toujours un peu venue. Parce que quand on passe de athée à détester Dieu et qu'on voit son amour, et donc je ressens son amour, sa paix, mais j'ai toujours les voix. Puis j'ai toujours envie de me droguer, etc. Et je suis toujours sous médicaments, avant de dormir, je dis écoute Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi tout ça. Mm-hmm. Et en fait, je me réveille, je me rends compte que j'ai fait une nuit complète, que j'ai dormi. Et en fait, c'est comme si qu'on avait pris mon cœur, qu'on me l'avait changé. Et en fait, j'étais en paix, sauf que j'avais jamais connu la paix. Mm-hmm. Et en fait, je cherchais la douleur. Je disais, mais c'est pas possible. Enfin, je cherchais. Puis je me souviens, je me lève, j'ouvre ma porte d'entrée, et c'était comme si que le ciel était plus bleu. Les arbres étaient bien verts, l'herbe, etc. Et je me dis waouh. Et puis là, ça commence avec Dieu. Il me délivre de mes voix, de la drogue. Je jette tous mes médicaments. Je dis pas qu'il faut faire ça. mais je jette tous mes médicaments, toute ma drogue à la poubelle. Et puis bah là, j'avance avec Dieu.
Oh wow, c'est merveilleux. Et puis c'est vraiment très beau cette rencontre toute seule, toi avec Jésus dans ta salle de bain, cette délivrance aussi immédiate. Et tu vois, j'avais déjà entendu quelqu'un qui racontait ça. Je cherchais la douleur, tellement habituée à la douleur, tellement habituée à souffrir, se réveiller avec. Et je cherche la douleur, mais elle est plus là. Et c'est exactement le message de l'évangile. C'est Jésus qui a pris nos souffrances et de te réveiller le cœur léger. C'est tellement beau. C'est merci Clémentine de nous le partager. Et là, donc, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à toi.
Je veux juste rebondir. Et Clémentine a dit quelque chose d'important. Là, c'est le pasteur qui parle et le docteur. Mais en fait, c'est vrai que Dieu agit de façon miraculeuse certaines fois, de façon instantanée. Mais elle a dit, c'est pas tout le monde. Pour elle, elle a acheté ses médicaments et Dieu a guéri. Mais pour certains, pour pas prendre ça, Dieu peut agir à travers aussi. C'est important d'être sage. Mais Dieu ouvre de nouvelles destinées. Ceci est important de le dire, que peu importe la forme, le Seigneur est là et c'est le Dieu des miracles encore. Et des fois, il faut être sage. Et dans ton cas, merci Seigneur, c'était la bonne chose. Et dans d'autres cas, d'autres situations, ça va passer par la médication quand même pour un certain temps et peut-être plus jamais après. Exactement. Mais il y a des étapes dans ça et je trouve ça important que tu l'aies souligné. Mais continue. Oui. Alors, c'est trop, trop beau de voir comment ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est tellement encourageant pour chacune d'entre nous.
Et là, comment quand j'ai suivi ton témoignage, donc il y a vraiment un avant, il y a un après, mais il y a eu une rechute parce que je crois que tu as revu des amis, c'est ça, quelque chose comme ça?
C'est ça. Okay. En fait, moi, j'étais à fond dans Dieu, vous voyez. La nouvelle convertie, j'achetais des bibles en entier, des cartons. Vraiment. Et puis, pour moi, je ne connaissais rien de Dieu. Donc, j'ai commencé à aller à une église. Et puis, en fait, plus ça allait, ce qu'il disait, etc., parce que moi, je lisais, je dévorais la Bible, puis je me disais, mais il y a un problème. Il y a un problème, soit j'ai pas la bonne Bible, soit il y a un problème chez eux, etc. Bref, donc, j'avance, et puis je me rends compte, on me dit, mais toi, tu penses comme une évangélique, etc. Puis je me dis, mais c'est quoi, ça? Puis en fait, on m'explique, il y a plusieurs branches, et en fait, je sors de ce rendez-vous, puis je me dis, mais Seigneur, moi, je crois en toi, c'est pas pour entrer dans une secte, parce que j'avais très bien compris le baptême, parce que j'avais demandé le baptême, et puis, en fait, on voulait pas, on voulait me faire des confirmations, etc. Et puis, du coup, j'ai avancé comme ça. Donc, du coup, j'avais pas d'église parce qu'il y en avait pas autour de chez moi. Et puis, un an et demi après, j'ai revu des amis, de la famille. Puis, en fait, j'ai bu un verre, puis deux verres, trois verres. Et après, c'était fini. Je suis retournée en pire, dans la drogue.
En combien de temps la spirale s'est remise en route?
Le soir et le lendemain, c'était fini, je demandais de la drogue.
Tu te sentais comment après tout ce que tu avais vécu?
C'était encore plus horrible parce que là, je savais que Dieu existait. En fait, j'arrivais plus à retourner parce que je retournais accro à la drogue et j'arrivais plus à retourner, donc j'avais encore plus honte. Donc, du coup, je me redroguais encore plus pour oublier de. Et puis.
Et ça a duré combien de temps?
De 2016 et. 2016 et 2018, je suis retournée à Dieu. Un an et demi parce que c'était.
T'es retourné. Mais tu sais, je trouve ça dommage, mais je trouve ça aussi important que t'en parles parce que ça arrive en fait ce genre de choses. Et puis qu'à la fois on se dit c'est trop tard. Tu vois, j'ai eu ma chance, j'ai gâché ma chance. J'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Et des personnes qui restent en fait dans ce trou la deuxième fois en se disant c'est impossible, j'aurai jamais une deuxième chance. Mais tu vas nous dire tu as une deuxième chance. Donc, comment est-ce qu'on peut remonter la pente?
Je vais voir une psy parce que je me dis, ça va pas, les crises d'angoisse, etc. Et puis, le truc, c'est qu'on m'avait donné des nouveaux médicaments. Sauf qu'en fait, j'avais compris qu'avec ces médicaments-là, je pouvais voir. En fait, ça coupait le fait d'être saoule et je pouvais boire tout ce que je voulais. Donc, en fait, c'était encore pire, quoi.
Okay.
Et donc, je vais voir ses psys, on parle. Puis un jour, elle me dit, non, mais Clémentine, je veux juste te raconter une histoire, tu fermes les yeux et tout. Puis moi, en fait, je parlais que de Jésus. Parce que j'avais été rejetée par mes amis d'avant. Je passe de celle qui fait la fête, etc., à celle qui croit en Dieu, qui est dans une secte, qui est, enfin, ça va pas, même ma famille pensait que j'étais tombée dans une secte. Donc, j'étais un peu rejetée, quoi. Mm-hmm. Et puis, j'avais besoin d'être aimée, etc. Et donc, elle me raconte cette histoire. Imagine, t'es dans une forêt et tout, t'arrives à un ruisseau, puis y a quelqu'un sur un bateau qui vient, puis enfin qui vient vers toi et tout. Et en fait, je pleure. Puis elle me dit, excusez-moi, c'est votre père. Et puis là, je dis, c'est Jésus. Et en fait, ça m'a aidée à dire, peu importe les personnes qui me rejettent, Seigneur, je retourne à toi, parce que j'avais peur d'être rejetée encore par les autres.
Okay.
Et là, en fait, je retourne à lui et je lui dis, par contre, Seigneur, c'est une alliance maintenant que je veux avec toi. Mm-hmm. Plus jamais je te quitte, je t'ai connu, enfin, ma vie sans toi, je t'ai connu, je suis retombée, j'ai vu ce que ça fait. Maintenant, c'est toi et moi pour la vie, je vais me baptiser, emmène-moi des chrétiens, enfin, je veux faire cette alliance avec toi. Et il l'a fait. Il m'a fait rencontrer des chrétiens. J'ai été baptisée en avril 2018. Et puis, en fait, petit à petit, c'est après, j'ai compris qu'il commençait à m'expliquer que j'avais vécu des abus. Ça a commencé par prière inspirée avec Jérémy et José qui témoignait de son témoignage. Et en fait, pour moi, c'était pour une amie à moi, c'était pas pour moi. Donc voilà, j'avais envoyé à une amie, puis en fait, ça me regardait pas, quoi. Puis un jour, j'achète un livre et en fait, la personne, elle explique pile ce que j'ai à l'intérieur de moi et que j'arrive pas à expliquer aux gens, mon mal-être, etc.
Mm-hmm.
Donc, à la fin, cette personne dit qu'elle a vécu de l'abus, de l'inceste et tout. Et je me dis, bah non, c'est pas possible, puisque c'est moi qui faisais les trucs jeunes. C'est moi le monstre. C'est moi ça. Donc non, c'est pas possible. Et puis je suis passée comme ça. Puis en octobre, justement, là, je crie à Dieu, je dis, mais non, mais Seigneur, là, il y a un problème, parce que je pouvais rien faire. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas aller faire les magasins, je pouvais pas aller au restaurant, je pouvais pas aller au cinéma, je pouvais rien faire. Et là, je crie à lui et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, en fait? Enfin, qu'est-ce que j'ai? Puis je recommence à refaire mon histoire. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me pose cette question, mais comment j'ai fait pour savoir tout ça jeune? Pour savoir, faire choses étant jeune, quoi. Et en fait, les souvenirs que j'avais avant et où j'avais pas le avant, bah là, ça revient. Et là, en fait, c'est comme un puzzle. Ça se remet tout en place. Sauf que là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, je vais jamais surmonter ça. C'est impossible. C'est ma famille,
la douleur,
qu'est-ce qu'ils vont dire?
Est-ce qu'à ce moment-là, quand les souvenirs reviennent, est-ce que la douleur aussi de tous ces événements revient, ressurgit?
Oui, parce qu'en fait,
de la colère aussi, peut-être.
Ouais, quand on a fait une amnésie et que les souvenirs reviennent, en fait, on revit les mêmes choses à l'âge où on les a vécues. Et donc, du coup, j'étais plus Clémentine qui avait, je sais plus quel âge j'avais, 2018, enfin 20 et quelques. J'étais Clémentine qui avait 3 ans. Et en fait, je me retrouvais avec toutes les angoisses, avec mais je suis complètement folle. Mais c'est pas vrai, en fait, ce que je dis et tout. Puis des fois, j'étais, OK, Seigneur, montre-moi des souvenirs et tout. Et en fait, quand ça revenait, j'étais, stop, arrête. Je dormais plus. J'avais dû mettre un matelas par terre dans la chambre de mon petit frère. Je devais dormir avec la lumière allumée. Je faisais des crises d'angoisse. J'avais des sueurs. Je vomissais. C'était terrible.
Est-ce que tu as pu être accompagnée pendant cette période?
Après, justement, j'ai demandé au Seigneur qu'il m'emmène quelqu'un qui croit en lui et qui peut m'aider par rapport à ça, et il l'a fait. J'ai été accompagnée, puis après, je suis rentrée dans cette association pour travailler, où j'ai accompagné aussi, après, des femmes victimes. J'avais un groupe de parole avec des femmes chrétiennes pour les aider, même dans leur relation avec Dieu, pour montrer que Dieu était là, et bref, tout ça. Mais c'est ça aussi, des fois, qu'on ne dit pas, parce que des fois, on entend les témoignages de Jésus, ça rend compte, puis après, tout va bien. Mais non, j'ai des angoisses. Je disais à ma mère, écoute, enfin, comme je dis aujourd'hui, je suis maman et je me dis, ma fille me dirait ça, mais je disais, écoute, quand j'en peux plus, quand je te dis que c'est fini, emmène-moi en hôpital, tout, dis-moi que Dieu va me guérir et que je pourrai aider les autres plus tard. Mmh. Et ma mère, en fait, elle me répétait ça. Mmh. Et elle me répétait. Ouais. Et, ouais, ça.
Et
ça,
si tu dis, quand on rencontre Jésus, de se dire, bah, tout va bien aller. Mais en fait, ça fait partie aussi du processus de guérison et de restauration. C'est que tout ce qui était caché soit mis à la lumière. Et, c'est en même temps extrêmement douloureux. Mais c'est la vérité qui
libère.
Et on a entendu, il y avait Barbara qui était venue aussi témoigner. C'est que c'est après la rencontre avec le Seigneur que, la mémoire traumatique s'est activée. Et, mais c'était en même temps extrêmement douloureux. Mais en même temps, c'était, ben, tu vois, maintenant,
c'est pour la guérison.
Parce que je suis là, et puis je vais t'accompagner là-dedans. Et tu m'as découvert, tu as découvert l'amour éternel, tu as découvert ma fidélité, et on va pouvoir passer à travers ça ensemble. Et c'est vrai que c'est douloureux. Et tu vois, quand tu le racontes, Clémentine, ça fait mal, tu vois, de t'imaginer revivre ces moments-là. Mais d'un autre côté, ben, c'est à travers ces moments-là que la guérison, la délivrance a pu avoir lieu. Et aussi la réconciliation avec toi-même, de te rendre compte. Mais pourquoi est-ce que j'ai été comme ça, pourquoi dès mon plus jeune âge j'ai eu ce genre de comportement, toi qui t'étais toujours considéré comme un monstre, en fait tu te rends compte, mais attends, mais j'étais une victime, et personne me l'a jamais dit, personne ne l'avait peut-être jamais su, c'était la vraie source de ta douleur. C'est pour ça même qu'une fois que t'as rencontré Jésus, que t'as pu retomber dans les addictions, parce que cette blessure là était pas guérie. Donc je trouve ça très beau, tu vois, que tu puisses le raconter, et que tu vois, ce soit pas une histoire, comme on pourrait dire, genre l'histoire, oui, c'est bon, toute ma vie a changé, tout était fini. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, le processus de la guérison, c'est pas toujours très, très glamour, mais c'est beau et c'est magnifique.
C'est ça, parce que peut-être qu'il y en a qui ont vécu des abus et qui essayent de se reconstruire, et elles disent, mais en fait, ça avance pas. Ou elles voient les témoignages, oui, j'ai été guérie. Mais non, j'ai passé 2018 jusqu'à 2020, où vraiment, enfin, déjà, ça a été très court. Moi, je pensais que le Seigneur, il allait mettre 10 ans, et encore. Et d'ailleurs, quand mes souvenirs sont revenus, je me suis retrouvée avec de la drogue entre les mains. Et là, en fait, j'entends Dieu me dire, si tu fais ça, c'est fini pour toi. Je veux plus rien pour toi. C'est la mort. Et moi, je suis là en train de lutter, de dire, mais non, mais Seigneur, tu pourras jamais me guérir de ça. L'histoire est trop grosse, parce que c'était énorme. Et en fait, il mettait ce verset dans mon cœur, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et en fait, en 10 minutes, j'étais là avec ma drogue et je me disais, mais c'est pas possible, il va jamais pouvoir. Mais en même temps, il est Dieu, il peut tout. Et j'étais là et puis j'ai dit, ok, je te fais confiance, mais par contre, tu me guéris entièrement. Et c'est ça, je pensais qu'il allait mettre des années. Mais j'ai appris à passer du temps avec Dieu, à l'entendre. Parce que justement, j'étais seule dans ma foi. Après, j'ai trouvé une église et puis j'avais compris le baptême du Saint-Esprit. Puis moi, je voulais être baptisée, je voulais tout, moi, je voulais tout le pacteur. Sauf qu'on me disait, oh, mais non, ça sert à rien et tout. Puis je voyais qu'en fait, c'était une église. Voilà. Je suis restée dans ma chambre. Un mois, j'ai prié pour être baptisée du Saint-Esprit et j'ai été baptisée. J'ai cherché Dieu. Et en fait, quand Dieu me parlait, ben, je l'écoutais. Je savais qu'il était quelqu'un de bien. Enfin, qui voulait notre bien, qui voulait me restaurer. Et des fois, en fait, on a de la colère dans le cœur contre Dieu, cachée. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'avance pas autant dans notre reconstruction. Et donc, du coup, donc le Seigneur me restaure petit à petit. Je travaille dans une association en même temps, etc. Et en fait, 2019, des souvenirs reviennent, mais d'une autre personne. Et là, je me dis... À un moment donné, donc c'était deux personnes de ma famille, et ces deux personnes, c'était des frères. Et en fait, justement, j'avais aussi ces souvenirs de lui, mais de avant, que je sortais de sa chambre, que j'allais aux toilettes, mais j'avais pas le avant, en fait. Enfin, j'avais le après, mais pas le avant. Et là, je sens, et là, je commence en fait à m'énerver. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il nous connaît à l'intérieur de notre cœur. Il sait quand on peut avancer. Et il sait nous stopper, dire stop, et il sait quand on est en colère. Et moi, je voulais pas lui dire, enfin, ça montait en moi, puis je sentais qu'il voulait me parler, moi je disais non, je prends, je te parlais. Enfin, voilà, il y a des jours où c'était comme ça, c'était pas tout beau, tout rose. Hein. Et puis, en fait, il me fait comprendre que j'ai de la colère envers moi. Et en fait, j'explose. Et je dis, mais t'étais où, en fait? T'étais où, là? Parce qu'au bout d'un moment, ça va, quoi. Et en fait, il me dit, laisse-moi te montrer. Et en fait, je me vois dans la chambre, donc en train de t'abuser. Et en fait, je le vois à côté du mur en train de hurler et de pleurer. Et là, je me dis, des fois, il faut poser les questions à Dieu. J'avais cette relation avec lui, c'est que même si j'étais fâchée, ce qu'il pouvait me dire, je respectais, je l'écoutais. Comme un peu comme dans un couple. Si, je sais pas, vous êtes fâchée avec votre mari, vous n'avez pas envie de parler, mais vous avez du respect pour lui, vous l'écoutez et vous croyez ce qu'il vous dit. Ben moi, c'était ça avec Dieu, ma relation avec lui, donc je le laissais. Et quand il m'a montré ça, j'ai dit, OK, on continue la restauration. Et il a continué petit à petit.
Ah mais c'est merveilleux. En tout cas, c'est tellement beau ce que Dieu a fait. Et puis aussi, ce cœur en fait, que tu avais pour lui. Et on va quand même terminer sur cette bonne nouvelle. C'est que tu t'es mariée aussi par la suite. Tu t'es mariée en quelle année? En quelle année tu t'es mariée?
C'est ça, quand on dit, j'ai passé justement 9 ans enfermée chez moi. De mes 6 ans et demi à mes 27 ans, j'ai souffert. Écoutez, en 2020, j'ai rencontré mon futur mari. En 2021, on s'est mis ensemble. En 2022, on s'est fiancés. En 2023, on s'est mariés. En 2024, j'ai une magnifique petite fille.
Oh, bravo.
Quelle belle lancée, 2025. Bravo. Ouais.
En 2025, t'es avec nous.
Ouais, exactement. Non, mais... Et des fois, il y a un verset qui dit que Dieu redonne tout ce que les sauterelles ont volé. Exactement ça. Quand on lui fait confiance, il redonne tout. Jamais, quand j'étais dans ma chambre là en angoisse, jamais j'aurais pensé même que j'aurais déménagé en Suisse, que je me serais mariée, que j'aurais une petite fille, que je suis très saine dans ma tête, même dans tous mes groupes d'amis, je suis la plus saine aujourd'hui. Et que non, mais il faut le dire, enfin, j'étais celle qui était critiquée, etc. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a remis en place.
Ah mais merci, c'est beau. Merci Clémentine, merci d'avoir partagé ton histoire. Et c'est une histoire qui est extrêmement bouleversante, mais aussi touchante. Et je vais terminer en vous le redisant. Ce que Dieu a fait pour Clémentine, il peut le faire aussi pour toi. Et il est ce Dieu d'amour. Et de la même façon que Clémentine a pu faire sa rencontre toute seule en s'étant acheté une Bible, eh bien aujourd'hui, toi aussi, tu peux faire cette rencontre avec Jésus. Tu as entendu ses témoignages, ton cœur a été touché, tu dis mais moi je veux vivre la même chose, tu peux lui dire Jésus, eh bien moi je crois que tu existes et aujourd'hui j'ai envie de te donner ma vie, j'ai envie de te donner mon cœur et je veux te demander, fais tout ce que tu veux dans ma vie, donne-moi cette guérison dans mon cœur parce qu'il n'y a personne qui peut me la donner, aucun médicament, aucun traitement, aucune addiction n'a pu me guérir, mais aujourd'hui Jésus je te demande de venir agir dans mon cœur, fais cette prière sincèrement, je crois qu'il va venir te rencontrer. Je crois que tu vas goûter à son amour, tu vas goûter à sa présence et que ce sera le début d'une nouvelle vie, le début d'un nouveau départ, comme la vie de Clémentine. Alors encore une fois, Clémentine, un grand, grand merci à toi d'avoir pu témoigner. Et puis, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer aussi. Et puis, on te dit bye bye. Et puis, à vous tous aussi,
merci.
On vous dit bye bye. Et n'oubliez pas, vendredi, on a une émission spéciale avec le fils de Stéphanie qui viendra nous raconter aussi son témoignage, comment Dieu a été fidèle pour lui et pour toute sa famille. Donc on s'est dit à vendredi, bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.